Léopold Sacher-Masoff, La Dompteuse. Vers le commencement de l'hiver de 1859, la célèbre ménagerie Arsberg va s'installer à Bucarest pour la première fois. La ville entière s'ébute à la vue d'un nombre d'animaux rares, si grand qu'elle n'en avait jamais auparavant contemplé autant réunis à la fois. Chacun fut frappé de la beauté des lions, et tout particulièrement de celle de la dompteuse qui leur faisait exécuter des tours invraisemblables. C'était une jeune Suédoise. Elle se nommait Irma Dahlström, était belle, distinguée, téméraire et inaccessible. Le bruit courait qu'elle était la fille bien-aimée du propriétaire de la ménagerie, mais les riches boyards qui l'assaillaient de leurs hommages ne rencontraient chez elle qu'une froide amabilité et une hontaine fierté qui les décourageaient et ne leur laissaient aucun espoir d'obtenir ses faveurs. Elle vivait avec la famille d'Arsberg au premier hôtel de la ville, se rendait à la ménagerie dans leur propre équipage et rentrait à la maison également en leur compagnie, ne recevait aucune visite et ne se montrait jamais seule, soit dans la rue, soit quelque autre part. Cette austérité de vestale et cette réserve excitaient les sens des galants seigneurs et piquaient davantage la curiosité du restant de la population, en tant que la Suédoise devint bientôt aussi populaire à Bucarest que l'avaient été avant elle la Catalani et la Lola Montes. Un certain soir, le prince Maniasco, la coqueluche des dames de Bucarest, précisément de retour d'une fugue faite à Paris, se rendit à la ménagerie. En compagnie de quelques amis, il visita les différents animaux, prit plaisir à les voir travailler et manger, et finalement alla se planter devant la cage au lion, attendant, un sourire sceptique aux lèvres, l'arrivée de la célèbre Suédoise. Tout à coup, une petite porte située au fond de la cage s'ouvrit et au milieu d'applaudissements frénétiques apparut Irma. D'un mouvement d'une fierté inimitable, elle rejeta la grande pelisse de velours fourré dont elle était recouverte et revêtue d'un costume de satin blanc et d'hermine rouge. Légère et souriante, elle pénétra dans la cage des fauves, un fouet en fil d'arcale à la main, droite, svelte, au visage le plus noble du monde, auquel les cheveux blonds comme l'or et de fraîches couleurs imprimaient un charme fascinateur. Le prince fut pris en un clin d'œil. En proie à une émotion croissante, il suivit chacun des mouvements de la chameresse, chacune de ses performances. Son cœur tressaillit lorsqu'elle plaça son adorable tête entre les terribles mâchoires du lion, comme aussi poussa-t-il un soupir de soulagement lorsque la belle dompteuse, s'étant relevée, se mit à apostropher rudement le fauve tout en le foulant aux pieds et en le rouant de coups de fouet. La Suédoise avait à peine quitté la cage qu'elle aperçut, l'attendant droit, posé devant elle, le prince Maniasco. Lentement, elle s'enveloppa de sa fourrure qu'Edgar, le superbe héritier des Arsberg, lui tendait, tandis qu'elle laissait tomber ses grands yeux étonnés, presque effrayés, sur le visage idéal et charmeur de ce nouvel adorateur. Elle n'accueillit pas ces déclarations de l'air froid et hautain qui lui était habituel. Elle parut au contraire embarrassée et lui adressa un sourire indicible. Soir après soir, la ménagerie reçut dès lors la visite du prince. Aussitôt qu'Irma pénétrait dans la cage des fauves, non seulement lui adressait-elle du regard le plus aimable des accueils, mais elle ne cessait, autant que ses exercices lui permettaient, de lui lancer des coups d'œil, désireuse qu'elle était de s'assurer de sa présence, Et la séance terminée, trépidait d'impatience s'il n'était pas là pour lui passer sa fourrure. Mais tout se bornait là. C'était là tout ce qu'obtenait le prince, et ses plus ardentes sollicitations ne rencontraient aucun autre encouragement, en sorte qu'il fut bientôt envahi du désir enragé de posséder à soi tout seul cette femme étrange. Sur ces entrefaites, un rival lui vint inopinément en aide. Un certain soir, avant qu'Irma ne pénétrât dans la cage, Edgar lui dit d'une voix frémissante: Oh, j'avais jusqu'ici pensé que tu étais la fille bien-aimée de son père. Puis, avec un sourire, il ajouta: Oh, mais maintenant je te dis que je t'aime et que jamais je ne supporterai qu'un autre homme te fasse céder aux obsessions de ce boyard qui, déjà fiancé à une princesse, ne cherche qu'à se jouer de toi. Lorsqu'après la représentation, le prince vint chercher la Suédoise, celle-ci lui dit à brûle-pourpoint: Est-il vrai que vous avez une fiancée? C'est vrai, répondit le prince, mais si vous le désirez, ce roman assommant sera bientôt terminé, et comme votre esclave, vous me verrez à vos pieds. Hélas, vous ne m'aimez pas encore. Comment puis-je vous prouver le contraire? Elle le fixa attentivement, puis, vivement, à voix basse et d'un air plein de courage et de résolution, elle dit: Trouvez-vous à 11 heures à la petite porte de derrière qui conduit à la ménagerie. J'y serai, dit le prince d'une voix ferme. Il y vint, en effet, et comme il cherchait la ménagerie dans les ténèbres de la nuit, deux bras moelleux l'enlacèrent tendrement et deux lèvres brûlantes se collèrent aux siennes. Il ne fut bientôt question dans le pays que de la liaison qui s'était établie entre Maniasco, la belle dompteuse, et son père. Ce dernier plaignit le sort de son fils qui aimait depuis son enfance la princesse Agrafine Slobouda, laquelle allait bientôt se marier. Cette perspective donna lieu à une scène violente entre le père et le fils, et finalement ce dernier s'enfuit un beau soir et ne reparut plus à la ménagerie. Ce même soir, Irma passa une nuit d'angoisse. Déjà 2 jours, elle avait attendu son bien-aimé, puis, lui ayant écrit, il n'en avait pas reçu de réponse. Le quatrième soir, comme Irma quittait la cage des fauves, Edgar, qui était reparu, lui dit d'un air tendre et soucieux, tout en l'enveloppant de la moelleuse pelisse: Irma, veux-tu que je te dise pourquoi le prince ne se montre plus? Parle, fit-elle sourdement, je suis prête à tout entendre. Eh bien, d'ici 3 jours, il doit célébrer sa noce. Tu mens. Et pourquoi mentirais-je? Mais comment se nomme sa fiancée? La princesse Agrafine Slobouda? Est-elle belle? Oui, belle, jeune et riche. Irma poussa un mauvais éclat de rire. Dis-moi que tu verseras une larme, une seule, si je meurs pour toi, s'écria Edgar, et j'irai te venger, je le tuerai. Non, Edgar. Tu n'as pas à agir, pas toi. Alors le polisson va demeurer impuni? Oh, certes non, répondit-elle d'un ton calme et résolu. Eh bien, laisse-moi le tuer, murmura Edgar de ses lèvres blêmes et frémissantes. Non, dit Irma, abandonne-le-moi. Edgar lança un regard qui éclaira de reflets haineux son visage diabolique, comme enserré et torturé dans les replis terribles des hideux serpents de la vengeance. Le jour suivant, vers minuit, le prince Maniasco se trouvait assis dans le petit décoquet boudoir de sa fiancée, et tandis que la princesse, avec un sourire hautain et railleur, exprimer le désir de voir au moins une fois cette danseuse qui étonnait tout le monde. Il roulait de ses fines mains la cigarette qu'il lui destinait. Le frêle rouleau de papier trembla entre ses mains et le tabac au reflet d'or s'épandit sur ses doigts blancs. On m'a dit tant de choses remarquables de cette personne, fit Agrafine d'un ton malicieux, que je me suis mise en tête d'assister à l'une de ses représentations, voire aujourd'hui même en votre compagnie, prince. Comme ce soir-là, la Suédoise pénétrait dans la cage au lion, elle aperçut Magnasco ayant à sa côté une jeune et séduisante dame qui la provoquait en la fixant de sa lorgnette. Ce ne pouvait être que la fameuse princesse, sa fiancée. Elle le sentit de suite et se mit à trembler. Néanmoins, son émotion ne dura qu'une seconde, et se ressaisissant, elle procéda froidement et courageusement au travail de ses fauves. Comme, après un tour d'adresse plus fatigant que les autres, elle se reposait sur le dos du plus fort de ses lions, tandis que les autres étaient étendus à ses pieds, la princesse lui adressa de sonores bravos et lança dans la cage sa bourse pleine d'or. Un murmure involontaire parcourut les rangs des spectateurs. Là-dessus, Irma se mit à frémir. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle perdit tout contrôle sur elle-même ainsi que sur les fauves qui l'environnaient. Alors le gros lion leva la tête, la regarda d'un air étonné, puis saisit tout à coup son bras gauche dans ses terribles mâchoires. Un cri d'horreur s'éleva des 1000 poitrines. En ce même instant, Irma s'était ressaisie. Elle fixa le lion, lui adressa un commandement, et aussitôt le puissant fauve lâcha le bras. Se levant alors, elle empoigna l'indocile brute par la crinière, posa le pied sur elle et la frappa du fouet à fil d'arcale, jusqu'à ce qu'enfin domptée, la bête vint d'elle-même s'étendre à ses pieds. Un tonnerre d'acclamations et d'applaudissements vint récompenser la vaillante Suédoise. Quand se marie-t-il? Telle fut la question qu'Irma adressa à Edgar en quittant la cage. Après-demain, fut la réponse. Veux-tu te charger toi-même d'une lettre pour lui? Oh, dès que tu m'en donneras l'ordre. Je te remercie. Irma lui serra la main, mais Edgar la prit et la couvrit de baisers. Le lendemain matin, la dompteuse écrivit au prince. Elle désirait une dernière fois le voir et lui parler. Elle le priait ensuite de venir à la ménagerie à l'heure habituelle, en échange de quoi elle s'engageait à quitter Bucarest le jour même de son mariage. Edgar remit lui-même la lettre au prince. Ce dernier la parcourut, se mit à rire, puis dit: Oh, j'irai. À l'heure dite, 11 heures du soir, le prince se présenta en effet à la porte de derrière de la ménagerie. Comme jadis, il n'eut aucune difficulté à l'ouvrir. Dans la lueur blafarde que les étoiles jetaient sur la neige, apparut Irma, revêtue d'une courte jaquette de fourrure. Elle lui prit la main et le conduisit avec précaution par le sombre passage. Comme autrefois, elle fit griller une seconde porte sur ses gonds, introduisit le prince dans un lieu complètement sombre, puis enlaçant le cou de Magnasco de ses beaux bras, elle le couvrit de tendres et ardents baisers. Soudain, elle disparut. La porte était solidement fermée et le prince, en cherchant une issue, heurta du pied quelque être vivant qui se mit à remuer. Qu'était-ce? Irma ne l'aurait-elle pas, comme jadis, conduit dans sa loge? Au même instant, une lueur rouge et crue inonda l'endroit où se trouvait Magnasco. Irma venait d'attacher une torche enflammée à l'un des barreaux de la cage au lion. Et c'est là, dans cette cage, au milieu de ces fauves, que se trouvait enfermé l'infortuné prince. Un effroi indicible s'empara de tout son être. Irma, les bras croisés sur la poitrine, se tenait devant la grille et, tout en le contemplant de ses yeux bleus et froids, poussait des éclats de rire saccadés et sataniques. Le prince s'efforça d'ouvrir la porte, mais en vain. Mais bon Dieu, Irma, que signifie cela? Fit-il, la voix pleine de sanglots. Eh bien, je célèbre aujourd'hui mes noces avec toi, et mes lions sont nos invités. Mais as-tu perdu l'esprit? Oh, j'ai au contraire plein sens de ce que tu fais. Tu m'as trahi. Or, je t'ai condamné à mort. Suce à lui, mes amis! Et de son fouet, elle se mit à réveiller et à exciter les fauves assoupis, tandis que le prince appelait éperdument au secours. Affolés par ses cris perçants et par les encouragements d'Irma, les grands félins bondirent sur le malheureux. Sous leurs griffes et leurs puissantes mâchoires, bientôt son sang coula. Il implora, il eut à en désespérer, tandis que, appuyée contre les froids barreaux, elle se repaissait de son agonie, de ses tortures. Les lions mirent longtemps à accomplir leur cruelle besogne. Quand le prince fut mort et que gît son cadavre en lambeaux, étendu sur le plancher de la cage, les fauves s'en éloignèrent, craintifs, et se mirent à lécher leurs pattes sanguinolentes. Cette même nuit, la belle dompteuse disparut de Bucarest, et personne n'a jamais su depuis ce qu'elle était devenue.